Alors, notre texte d'aujourd'hui, ça va être 2 Corinthiens 9, les versets 5 à 13. Mais d'abord, un mot d'introduction. Nous sommes au 1er siècle, peu après l'an 50. L'apôtre Paul a reçu de Jésus la mission d'évangéliser et de fait, il a déjà fondé bien quelques églises. Mais il s'est aussi donné un autre objectif. Il demande aux gens aisés des églises qu'il a fondées de soutenir financièrement les églises qui ont de la peine. Et notamment maintenant, il est en train de faire une vaste collecte pour l'église de Jérusalem, qui est en grande difficulté, probablement à cause des persécutions à cette époque. Alors, Paul en parle dans ses lettres, dans ses épîtres, et puis il en parle aux églises qu'il visite. Alors là, pour le moment, les Corinthiens, ils ont déjà promis à Paul son soutien, leur soutien, mais dans leur église, ils n'ont pas encore fait la collecte pour ça. Et au début de ce chapitre 9, juste avant notre texte, eh bien, Paul a annoncé aux Corinthiens qu'il va venir les voir pour prendre ce soutien et pour l'apporter à Jérusalem. Voilà où nous en sommes. Maintenant, voici ce que Paul leur écrit au verset 5. Je lis ici au verset 5. « J'ai donc estimé nécessaire d'exhorter les frères à me devancer chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête comme une libéralité et non comme un acte d'avarice. » Le premier terme que j'aimerais relever ici, c'est « libéralité ». Dans la langue originale, en grec, ce mot signifie « un acte de bienveillance qui vient du cœur ». C'est-à-dire un acte de soutien vraiment choisi, un cadeau. Alors, cette collecte pour l'Église de Jérusalem, c'est important que les Corinthiens la fassent avant l'arrivée de Paul. Sinon, elle ne pourra pas être une vraie libéralité, un vrai cadeau. Parce que si les Corinthiens attendent que Paul soit là pour faire la collecte, il y aura alors sur eux comme une pression. Et de leur part, ça ne pourra pas être un don vraiment, vraiment libre, comme une libéralité justement. D'autant plus que, peut-être, selon un verset qui est juste avant notre texte, quand Paul va venir, il va être accompagné de membres de l'église de Macédoine qui, eux, se sont engagés très généreusement dans cette collecte. Et puis maintenant, regardez, Paul dit « comme une libéralité et non comme un acte d'avarice ». Intéressant ce mot « acte d'avarice ». En grec, ça veut dire « avoir plus que les autres, obtenir une plus grosse part. » En fait, Paul veut dire que ce don financier soit de votre part un vrai cadeau. Et non pas seulement une espèce de versement obligé que vous feriez juste pour ne pas perdre la face. C'est-à-dire, Paul nous montre ici quelque chose d'important. Il y a deux manières de faire une offrande au Seigneur. Une libéralité ou un acte d'avarice. Et ce qui fait la différence entre les deux, ce n'est pas le montant, c'est notre motivation qui est derrière. Autrement dit, le plus important aux yeux de Dieu, ce n'est pas combien nous donnons, c'est comment nous donnons. Mais là, allons un peu plus loin. Au fond, le point important, c'est est-ce que nous donnons par obligation, en fait, un peu pour nous-mêmes, hein, pour nous légitimer nous-mêmes, ou bien est-ce que nous donnons par amour pour les autres, en fait, en suivant notre consécration au Seigneur. Parce que quand nous donnons par amour pour les autres, nous consolidons quelque chose de notre vie spirituelle. Hein? D'abord, nous consolidons ainsi notre relation avec le Seigneur, et puis ensuite, nous consolidons aussi notre relation avec nos frères et sœurs dans l'Église. Et ça, ça fait que les dons que nous faisons, c'est non seulement un témoignage de notre foi, c'est aussi un ciment dans l'Église. Alors, dans ce verset, Paul nous donne, si je puis dire, un premier axe qui devrait orienter notre soutien financier dans l'Église. Dans l'Église avec grand E, je veux dire. Hein? Notre vraie offrande dans l'Église et devant le Seigneur, ça ne devrait pas être un don qu'on fait par obligation. Ça doit être un cadeau qui vient du cœur. Et un cadeau, non seulement en direction de Dieu, mais aussi en direction des frères et sœurs. Et là, en fait, c'est un acte d'amour, hein, un acte d'agapé en direction de celui qui en a besoin. Alors, dans notre vie concrète de foi, notre vraie offrande, d'un côté, c'est un acte de témoignage, hein, envers celui qui va la recevoir, même si c'est fait en secret. Et puis d'un autre côté, c'est un acte tout simple de nous, mais c'est aussi un ciment dans l'Église. Maintenant, intéressant, dans toute cette économie d'actes d'offrande, si j'ose dire, eh bien, nous ne sommes pas les seuls à être actifs. Hein? Il y a notre part, mais il y a aussi la part de Dieu. Regardez le verset 6. Je lis. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Ici, dans ce verset, hein, nous sommes celui qui sème peu ou en abondance. Et le Seigneur, c'est lui qui nous fait moissonner, peu ou en abondance. Du coup, il y a ici une promesse pour nous. Si nous semons en abondance, nous récolterons en abondance des bénédictions du Seigneur. Ça, en fait, on ne pourra pas le calculer, ni non plus vraiment le mesurer. N'empêche, on ne sait pas comment ça arrive, mais ça arrive. Et si on regarde en arrière dans nos vies, on voit que c'est quand même bien ce qui se passe. Alors ça, ce retour de bénédiction, hein, c'est la part de Dieu. Et puis notre part à nous. Regardons le verset 7. Je lis. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Très intéressant. Hein, on s'attendrait à ce que Paul dise, alors, que chacun donne en abondance. Hein? Ça serait pile dans la ligne de ce qu'il vient de dire, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Le mot grec traduit ici par « résolu », c'est un verbe qui signifie « choisir à l'avance ». Et du coup, ici, Paul nous donne un deuxième axe qui peut ou qui devrait orienter notre offrande. Notre vraie offrande devant le Seigneur, ça doit être un acte choisi librement. D'ailleurs, regardez, Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors l'idéal, c'est qu'on puisse réfléchir à l'avance combien on va donner. Parce que c'est ça qui fait qu'on peut vraiment donner sans pression et avec joie. Et puis dans l'Église, notre vraie offrande, ça doit être un cadeau qui vient du cœur et pour les autres. C'est ce qui en fait un ciment dans l'Église. Et là, il m'a semblé intéressant d'ouvrir une parenthèse pour parler de la dîme. Ça, hein, la dîme, c'était une règle tout à fait fondamentale dans l'Ancien Testament. Je vous lis un verset dans le Lévitique. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est Lévitique 27, le verset 30. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, hein, donner à Dieu la dixième partie de ses revenus, c'était une règle que le Seigneur avait fixée, une obligation qu'on devait respecter pour être juste devant Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas la même chose. Dans l'Évangile, Jésus n'utilise que deux fois le mot dîme. Et c'est pour parler de ce que font les pharisiens. Et puis l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui, il n'utilise jamais le mot dîme. Et pourtant, vous vous souvenez, hein, au cours de ses voyages, Paul a organisé cette grande collecte pour l'église de Jérusalem. Et dans ses lettres, il en parle. Et puis, il parle des offrandes, hein, de nos offrandes, cet argent que nous donnons au Seigneur. Et en plus, dans les églises auxquelles Paul écrit, il y a beaucoup d'anciens juifs qui, eux, connaissent tout à fait la règle de la dîme. Cependant, dans ses épîtres, Paul n'utilise jamais le mot dîme. Pardon. Tout ça pour dire que dans la nouvelle alliance où nous sommes maintenant, devant Dieu, il n'y a pas de dîme obligatoire, en fait. Cependant, regardons bien ce que Paul dit ici. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Et ça, vous êtes d'accord, ça peut aussi être plus qu'un dixième. De plus, dans l'Évangile, Jésus donne une fois un exemple d'offrande. Il y avait des riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Et puis aussi, une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Et voici ce que Jésus dit. Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est dans Luc 21, les versets 3 et 4. Alors, il y a ici un appel pour nous. D'abord, quand nous décidons de donner une partie de nos biens au Seigneur, nous faisons juste. Mais le mieux, c'est d'y réfléchir à l'avance, tout seul, à l'intérieur de nous. Hein, du moins, autant que possible. Maintenant, ce que nous donnons au Seigneur, ça peut être plusieurs choses. Pas seulement de l'argent. Par exemple, on peut lui donner du temps. Hein, du temps de préparation, par exemple. Mais combien? Là aussi, il nous faut le fixer nous-mêmes. Il n'y a rien d'obligatoire. N'empêche, il y a une bénédiction du Seigneur en rapport à ce que nous donnons. En fait, il y a là entre le Seigneur et nous comme une espèce de jeu de relation et de reconnaissance réciproque. Hein? Un jeu de confiance, on pourrait dire. Écoutez justement le verset 8. Je lis. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Alors, vous comblez de toutes sortes de grâces. Ça, c'est la part du Seigneur. À nous de faire notre part. Hein? À nous d'abord de reconnaître les grâces de Dieu et de le remercier. À nous ensuite de recevoir ces grâces et de les utiliser, comme ici, pour satisfaire à tous nos besoins. Et puis, à nous finalement, d'accomplir avec ce qui nous reste toute œuvre bonne, comme ici dans ce verset. Ça veut dire utiliser ce que Dieu nous donne avec une certaine mesure et profiter du reste pour faire le bien autour de nous. Tout ça, c'est notre responsabilité dans la gestion des biens que Dieu met à notre disposition. Écoutez le verset 9, justement. Je lis. Selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Très intéressant. Selon qu'il est écrit, hein, comme ce qui est écrit, suivant le modèle. Autrement dit, quand nous entrons dans ce jeu de confiance dont nous avons parlé tout à l'heure, eh bien là, nous prenons part à l'œuvre de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui, à travers nous, comme dans ce verset, répand ses bienfaits et donne à ceux qui sont dans le besoin. Et puis ensuite, ici nous avons une définition de ce que le Seigneur attend de nous. Bien sûr, ces œuvres bonnes dont on parlait au verset précédent, elles signifient d'abord notre soutien à nos frères et sœurs en Christ. Hein? D'ailleurs, ces indigents dont on parle ici font effectivement référence d'abord à ceux qui sont dans le besoin dans le peuple de Dieu. Mais finalement, comme Dieu lui-même répand sa grâce générale sur ceux qui ne croient pas encore en lui, hein, dans l'attente de pouvoir les amener vers lui, de même nous. Le Seigneur nous demande d'étendre notre soutien direct et concret à ceux qui en ont besoin autour de nous, dans l'Église avant tout, mais aussi envers les autres, hein, dans un élan de témoignage. Ça peut toucher nos voisins, nos collègues, etc. Et là, nous parlons toujours de ce jeu de confiance où le Seigneur fait passer son œuvre à travers nous. Écoutez justement le verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Donc, c'est bien ça, n'est-ce pas? Nous sommes le semeur. Et le Seigneur, c'est celui qui multiplie la semence. Et c'est fort. Ici, en grec, le verbe multiplier veut même dire fournir de plus en plus. Autrement dit, sur le plan de mes biens matériels, le Seigneur me donne amplement de quoi accomplir l'œuvre qu'il veut faire passer à travers moi en direction des autres. Et quand je fais un don au nom du Seigneur, que ce soit dans l'Église ou pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Seigneur me donne de quoi participer à travers mes libéralités aux œuvres qu'il veut accomplir à travers moi. Et devant le Seigneur, ces œuvres-là, elles vont porter du fruit. C'est ça, les fruits de votre justice qui sont dans le texte. C'est vrai, la plupart du temps, on ne connaît pas les fruits devant Dieu que portent nos engagements d'obéissance. Et c'est tant mieux. Mais il y en a. En donnant à ceux qui sont dans le besoin, nous suivons l'exemple que Dieu lui-même a donné. Et là, nous sommes pile dans la ligne de cette justice de Dieu qui subsiste à jamais. Vous vous souvenez, c'était au verset 9. De plus, en faisant ça, nous créons des liens qui pourraient devenir des occasions de témoignage. À tout ça, donc, ça concerne nos actes de soutien en dehors de l'Église. Et maintenant, nos actes de soutien à l'intérieur de l'Église. Écoutez le verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura pour le résultat des actions de grâce envers Dieu. Chez ceux donc qui vont recevoir vos dons dans l'Église. En fait, les actes de bienveillance pour les autres que nous faisons avec nos biens matériels dans l'Église, ces actes sont déjà à la base des œuvres pour le Seigneur, puisqu'ils vont en amener d'autres à exprimer leur reconnaissance envers lui, et ça sera pour eux un ferment de vie spirituelle. Alors je conclus. Ce texte nous parle de nos offrandes. Autrement dit, de cette partie de nos biens matériels que nous retournons au Seigneur. D'une part, mon offrande, elle est vraie et juste si elle est un cadeau qui vient du cœur. Ça veut dire, c'est important qu'elle soit un acte librement choisi à l'intérieur de moi. Et non pas juste quelque chose que je fais par imitation ou bien sous une pression externe. Et du coup, pour pouvoir vraiment choisir ce qu'on donne, l'idéal, c'est de pouvoir fixer à l'avance combien je donne et à qui. Et puis d'autre part, mon offrande, elle est vraie et juste si elle entre dans ce jeu de confiance entre le Seigneur et moi dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, d'un côté, le Seigneur me donne de quoi subvenir à mes besoins sur le chemin qu'il met devant moi. Et de l'autre côté, moi, je puise dans ce qui me reste pour accomplir ces œuvres bonnes et ces libéralités que le Seigneur attend de moi. Maintenant, devant le Seigneur, mon offrande n'est pas une obligation chiffrée. Cependant, le Seigneur nous fait une promesse. Si nous semons en abondance, nous recevrons ses bénédictions en abondance. Et puis, dernier point, quand nous faisons un don au Seigneur, nous faisons directement une œuvre pour lui. Déjà, puisque par là, nous amenons d'autres à le louer. Ou au moins, nous pouvons en amener d'autres à le rechercher. Alors, pour dire tout ça en deux lignes, mon offrande, elle est juste devant le Seigneur si je la fais dans une réponse de reconnaissance envers lui, librement et avec joie. Amen. Nous prions.